Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h02, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, en compagnie aujourd'hui de Paul Lassen, de Perico Légas, de Loumir Laprès et de Jérôme Lavrieux. Dans un instant, on débat autour de la présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, qui veut tenir sur la retraite à 65 ans. Est-ce que c'est une grave erreur? On vous attend bien sûr au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et on parlera, vous savez, des box cadeaux, ça n'existait pas il y a 10 ans, et là, tout le monde offre une box cadeau. Mais est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est non. Et Stéphane nous dira pourquoi. À 14h, un commerçant privé de son emplacement au marché de Cannes parce que son fils de 14 ans a commis une agression sur une vieille dame. Les parents doivent-ils payer pour leurs enfants? On vous attend également sur l'application RMC rubrique Direct Studio. Et puis, grand jour aujourd'hui puisque c'est le retour du coffre RMC, Paul.
Et oui, c'est déjà Noël sur RMC avec le retour du gros coffre RMC qu'on vous offre pendant 3 semaines. Inscrivez-vous tout de suite en envoyant coffre au 7-32-16. Alors si vous êtes sélectionné, écoutez bien, vous remportez quoi qu'il arrive une Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et 2 volants pour jouer à Mario Kart sur votre Switch. Mais, et c'est là tout l'enjeu, vous pouvez remettre tout ça en jeu si vous ouvrez le coffre avec dedans soit une PlayStation 5, soit une PlayStation Classic Mini, c'est-à-dire la version miniature de la toute première PlayStation. Et ce n'est pas tout, puisque le Père Noël peut aussi être très généreux à tout moment, casser sa tirelire et vous offrir jusqu'à 2 500 € en plus d'une des deux PlayStation.
Alors,
oserez-vous ouvrir le coffre RMC? Inscrivez-vous tout de suite par SMS en envoyant coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16, 3 SMS pour jouer, 75 centimes par SMS.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser à la mauvaise nouvelle du jour dans Estelle Midi. Et elle est pour tous ceux qui pensaient que le gouvernement allait reculer sur la réforme des retraites. Eh bien, il n'en est à rien. Et Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance, a même déclaré ce week-end qu'il fallait tenir sur l'âge pivot à 65 ans, alors même qu'Elisabeth Borne, la première ministre, avait laissé planer le suspense il y a quelques jours.
Oui, alors que les concertations avec les partenaires sociaux n'avançaient pas, c'est ce qu'en effet a mis Elisabeth Borne dans la balance, l'âge de 64 ans, assorti d'un allongement de la durée de cotisation. Mais visiblement, les volontés du gouvernement étaient déjà tranchées. Et on y voit un peu plus clair maintenant. Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance, l'a affirmé hier. Il faut tenir sur un départ à 65 ans, une volonté sociale et politique. Elle dit, il ne faut plus avoir à parler d'une réforme des retraites, à chaque nouveau quinquennat. Et pour ça, il faut trancher. La volonté affichée de la majorité est de mettre en place une réforme qui soit plus simple, plus juste, plus lisible. De la fermeté est attendue. Donc, mais Aurore Berger, en même temps, elle se veut aussi rassurante en affirmant que le gouvernement prendra en compte les carrières longues, la pénibilité, les carrières des femmes, du minimum de retraite. Mais pas sûr que ce recul assumé de l'âge légal à 65 ans plaise aux syndicats, notamment en termes de timing, puisque cette déclaration, elle intervient alors que les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux doivent se clore dans 10 jours, le 15 décembre.
Alors, remettre les 65 ans sur la table, est-ce que c'est une grave erreur, Loumir Laprès ?
Oui. Alors, moi je dois être honnête, je ne comprends pas cette obsession de la droite et de Macron de vouloir faire cette réforme des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même nous dit il n'y a pas de problème de financement des retraites. Donc en fait, il y a un moment...
Il nous a dit il n'y a pas de problème aujourd'hui.
Non, alors il n'y a pas de problème aujourd'hui, il y aura un pic à 2030, puis ça va se réaplanir à 2070. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous parler de ce sujet? Je ne comprends pas. La seule explication que j'ai, c'est que donc c'est de l'idéologie, parce qu'il n'y a pas de besoin concret. Donc en fait, c'est vraiment que c'est ils pensent que c'est nécessaire de travailler jusqu'à 65 ans, notamment pour être en standardisation avec le reste de l'Union européenne. Oui. Pourquoi faire en fait? Je veux dire, c'est pas parce que tous les autres font des choses problématiques que on veut pas être le seul à faire.
C'est comme dans la vie, quand tous les autres font quelque chose et vous êtes le seul à pas faire comme les autres, c'est que vous pouvez dire tous les autres sont des cons, ça c'est possible.
Ouais.
Mais vous pouvez aussi vous dire progressiste que nous. Peut-être que je suis dans l'erreur.
Mais ça je suis d'accord. Et c'est bien de se poser la question, mais c'est pour ça qu'on a un conseil d'orientation des retraites qui s'est posé la question et qui a statué qu'il n'y avait pas de problème.
Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui parce qu'on est même excédentaire l'année dernière.
Alors il a littéralement dit, je le cite, il n'y a pas de dynamique non contrôlée de dépenses des retraites le 15 septembre.
Oui. Pour cette année où on est excédentaire, mais ce sera déjà pas le cas l'année prochaine.
Bien sûr. Et donc ce que le corps explique, c'est que en effet, il va y avoir un déficit qui se creuse jusqu'à 2030 et qu'à partir de 2030, ça se renormalise et en 2070, il n'y a plus de problème.
Mais comment on peut savoir ce qui va se passer en 2070? On sait même pas quels seront les métiers en 2070 et
bien sûr, mais bon, après c'est comme toute projection. Bon, forcément, on se base sur les infos qu'on a aujourd'hui.
Enfin, une projection à 2070, moi, c'est comme la météo, vous savez.
Sauf que là, pour le coup, on a quand même des chiffres assez clairs de gens qui sont dans le monde du travail dès aujourd'hui, en réalité. Moi, on peut déjà me compter dans le monde du travail, alors même que j'ai 30 ans, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais enfin, voilà, en 2070, encore une fois, les métiers seront forcément différents. Jérôme Lavrieux, je vous sens très sceptique sur les propos de Loumire.
Non, parce qu'en reprenant les mêmes chiffres, je pense exactement l'inverse qu'elle, mais avec les mêmes chiffres.
Bah
de l'idéologie, c'est bien ce que je dis.
Mais je suis un idéologue et borné et buté, mais je vais essayer de dire
de
quand même, et de droite, j'aggrave mon cas moi-même, mais je vais quand même essayer de développer un tout petit peu ce que je pense. Le sujet, c'est préserver le système actuel français, qui est la retraite par répartition. Je rappelle que même si je cotise tous les mois pour ma retraite, c'est pas moi qui finance ma retraite. Mmh. Moi, je finance la retraite de ceux qui sont en retraite en ce moment. Et il faut que le jour où moi je serai en retraite, il y ait suffisamment de gens pour financer la retraite que j'aurai à ce moment-là. Les gens croient tous qu'ils épargnent pour leur retraite. C'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai. Et donc, on a ça à prendre en compte et on a un problème démographique. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de cotisants jusqu'en 2030 et ça s'accentue la baisse en 2070. Les chiffres de la natalité qu'on vient d'avoir aujourd'hui pour cette année sont très mauvais.
Ben oui.
Ça veut dire qu'on aura de moins de cotisants pour après. Et donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Le gouvernement, il prend pas une réforme à l'heure actuelle pour faire plaisir dans les 5 ans. Il sera plus au gouvernement quand elle sera en effet.
Surtout, il fait pas plaisir.
C'est en 2030. Le propre de gouverner, si c'était uniquement de faire plaisir, on serait dans le mur.
Attendre,
un peu
là,
plus.
T'es pas obligé de nous asséner ça maintenant.
Mais on peut pas d'une émission sur l'autre dire on a un gouvernement qui prévoit pas l'avenir et l'autre émission quand il prévoit l'avenir de dire ça. Moi la seule critère qui m'intéresse c'est combien d'années je pourrais rester en bonne santé à la retraite.
Et ça il le dit pas le gouvernement.
Et elle ne change pas.
En 1981 c'était 65 ans la retraite, on l'a mis et c'est heureux à 60 ans en 81, réforme Mitterrand. Oui. Désolé, pour un mec de droite, je rends hommage à François Mitterrand. Mais ceci étant, par rapport à maintenant, c'est sûr, par rapport à d'autres, il sera toujours même d'extrême droite, quasiment. Par rapport à maintenant, même quand elle était à 60 ans, on vivait moins à la retraite qu'on ne le vit maintenant.
Enfin, on vit pas mieux, je suis désolée. T'as plein de gens à 65 ans, ceux qui ont eu notamment des carrières longues. Quand t'as bossé dans le bâtiment, à 65 ans, t'es pas bien.
Bah, t'es mort, souvent.
Non, enfin, t'es mort.
Bah, il y a beaucoup de gens.
Si tu pars du principe, tu t'en fous que ce soit 65 ans ou 70 ans.
Non, il y a beaucoup.
Excuse-moi de la remarque.
Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ouvriers qui ne vivent pas leur retraite.
Non, il y en a qui, pour la mort.
Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur retraite. D'ailleurs, juste parce qu'on parle de chiffres, il y a 85% des plus pauvres qui pensent qu'on devrait partir à la retraite à 60 ans et seulement 35% des plus riches. Donc, c'est bien qu'il y a quand même un enjeu de qui profite de sa retraite. Et on le sait, les pauvres meurent beaucoup plus vite parce que
les pauvres font des métiers plus ingrats
que
les riches et donc les riches ont envie de travailler plus longtemps parce que leur métier
ça leur fait plaisir
leur métier est plus sympathique
mais grand bien leur face
comme Perico Légas d'ailleurs qui voudrait travailler jusqu'à 70 ans mais Perico est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing quand même est-ce qu'Aurore Berger elle avait besoin d'aller asséner ça tout de suite maintenant
vous mettez le doigt sur l'essentiel le fait que ce soit Aurore Berger c'est rentemplant. C'est le cobaye qu'on envoie en avant pour voir ce que ça va donner. Donc Macron lui a dit, sergent Berger, parce qu'elle est dévouée et disciplinée.
Mais c'est son boulot, elle est présidente du groupe majoritaire. Voilà. Elle va pas dire l'inverse de ce qu'a dit le président de la République.
Quand vous entendez les députés de son groupe parler d'elle, je m'abstiens. Et donc, on envoie Aurore Berger en avant en disant, ma chérie, viens voir. Donc, Élisée l'appelle. Tu vas lancer 65 ans, tu dis qu'on va te tirer la tête. On envoie. Oui, chef. Hop, elle envoie. C'est aberrant. On est en majorité relative. Elle a besoin de la cohésion de sa majorité elle-même qui n'est pas totalement unie. Ensuite, elle a en face des gens à part la droite, c'est extraordinaire, oui. elle soutient. Et on lance au moment où il y a justement une tension sociale très forte et où la réforme des retraites va devoir passer petit à petit dans le consensus le plus total, on envoie rentre en plan, jeter une grenade, allez hop, on dégoupille et puis on voit ce que ça donne. C'est aberrant.
Mais les concertations sont même pas terminées.
Alors sur le fond, alors là, nous ne savons pas, tu sais, la retraite, c'est en fonction des gens qui cotisent pendant
la retraite.
Je ne sais pas combien de Français en bonne santé et riches pourront cotiser pour payer ma retraite. Moi, je sais que quand je dis 70 ans, c'est vrai, c'est que je pense que j'en aurai jamais. Et je vais vous dire, je vous ai dit un chiffre parce que vous avez demandé à mon âge.
Oui.
Je ne prendrai jamais ma retraite. Je mourrai sur ce plateau, dans l'acte.
J'y serai plus, moi.
Oui, surtout qu'après, pour ceux que moi, j'ai pas la foi. Mais si c'est pour prendre sa retraite, arriver en haut et Saint-Pierre qui dit, tu vas commencer par balayer la cour et tu continues à bosser, tout ça, c'est très relatif. En tout cas, sur Terre, moi, je considère que je fais un métier qui n'est pas très éprouvant et on peut travailler jusqu'au bout et j'espère pouvoir cotiser. Je cotise beaucoup, hein, vous aussi. Voilà. Et si ça peut profiter à quelqu'un qui peut partir à la retraite avant moi, qui a vraiment eu un bon boulot pénible, je ne veux pas prendre ma retraite. Voilà. Donc, je veux un truc à la carte. Celui qui doit partir à 52 ans, il part à 52 ans. Non, mais celui qui doit partir à 52 ans, il part. Et si le fait que je travaille qu'à 70 permet à celui de partir à 52 ans parce qu'il en a besoin, c'est ça la solidarité. C'est la solidarité.
Bah,
et qu'on vienne pas avec des chiffres 64, 65, mais c'est con, c'est une bêtise.
C'est con,
mais ça leur fait plaisir parce qu'ils ont des...
Mais non, mais t'as besoin d'avoir une deadline, de savoir.
Sinon, si tu dis à tout le monde, partez de que vous voulez, moi à 30 ans, j'étais en retraite.
Non.
Moi, j'ai regardé mes relevés, j'ai besoin de savoir.
On fait du contractuel catégoriel et on voit par catégorie en fonction d'état de santé.
Ça existe déjà, c'est pour ça qu'un cadre, par exemple, le taux de remplacement, c'est-à-dire la somme qu'il va toucher quand il est en retraite, elle est en proportion plus faible que quelqu'un qui a un salaire plus bas.
Bah oui.
Il cotise beaucoup et il reçoit moins et c'est normal c'est pour faire de la solidarité.
On dit, vous avez le droit de travailler jusqu'à 70 ans. Vous avez le droit jusqu'à 70 ans.
J'espère pouvoir le faire.
Voilà, par contre, vous pouvez partir à un âge minimum. Alors là, effectivement, on peut... l'âge minimum, il correspond pas à tout le monde. C'est mal barré.
Tu devrais laisser le choix, la retraite à la carte. On a déjà parlé mille fois dans cette émission.
Et c'est la bonne solution, c'est la sagesse.
Évidemment.
Ça s'appelle la retraite par points.
Alors, allez expliquer ça à Aurore Berger.
Il a dit qu'on n'avait pas voulu.
Ah bah c'est ce que le syndicaliste disait tout à l'heure.
Hein. Oui, il a pas voulu pour la SNCF, ça évidemment, ça ne l'arrange pas.
Allez expliquer ça à Aurore Berger, le temps qu'elle comprenne.
Mais elle fait son boulot.
Mal.
Mais non. Si on veut parler politique-politicienne, deux secondes.
Non, parce
qu'elle est présidente du groupe, elle fait son boulot parce que c'est pas elle qui mène la négo.
Le fait qu'elle ait été désignée à la présidence de ce groupe majoritaire est une calamité.
Bon. On est avec Erwan Tison, c'est notre invité sur ce débat. Il est économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour Erwan Tison.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vu, le débat est assez enflammé sur le plateau. C'est une grave erreur d'avoir remis la retraite à 65 ans, là, comme ça, bim, dans l'actualité.
Disons que c'est un débat politique. Les fondements même de ce débat doivent plutôt être économiques. Quand on regarde ce que nous a dit le rapport du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui a publié un rapport extrêmement fourni il y a quelques semaines, ce qu'on voit, c'est qu'au final, quel que soit l'âge de départ, on pinaille à 63, 64, 65 ans, c'est le système même par répartition, en fait, qui est à bout de souffle. Deux petits chiffres là-dessus, et qui ne changent pas grand-chose malgré l'âge de départ en retraite à 65 ans. Ma génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés dans les années 90, auront une pension de retraite qui sera 30% inférieure quand ils seront à la retraite que ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mécaniquement, vous avez un rapport démographique qui s'est largement inversé. Il y aura 1,1 cotisant pour un retraité dans les années 60-70. 2060-70. Ce qui veut dire concrètement qu'un actif, pour financer une retraite de 1500 euros en moyenne, on devra lui prélever 1350 euros par mois en moyenne sur son salaire pour financer justement cette retraite.
Mais c'est énorme.
C'est énorme, mais en plus c'est les chiffres qui sont faits selon des scénarios qui sont plutôt optimistes, hein. C'est-à-dire que on n'a aucune crise financière depuis 2070, on n'a aucun problème démographique, on n'a aucun, on va dire, problème climatique. Donc du coup, ce qu'il faut revoir, c'est pas l'âge de départ, c'est comment est-ce qu'on finance nos retraites. Et il y a un pilier qu'on s'interdit en France, alors qu'il est dans tous les pays européens quasiment, c'est celui de la capitalisation. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est ce que vous cotisez,
on bosse
au lieu de transférer tout de suite, on le transfère dans une caisse et ça va faire des petits. Il y a deux professions en France qui ont la retraite par capitalisation, ce sont les pharmaciens et les fonctionnaires. Et chaque année, même vous prenez l'année 2020 par exemple, qui est la pire crise financière depuis plus de 60 ans, et ben les pensions de retraite justement de ce fonds-là pour les fonctionnaires ont augmenté 10%. Pourquoi ? Parce que ça a été très bien placé dans l'économie.
Alors pourquoi on fait pas ça pour nous, enfin pour tout le monde ?
Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez une opposition syndicale et politique à la capitalisation, parce que tout le monde...
Idéologique.
Oui, alors, pour des bonnes raisons, quand même. Enfin, moi, je veux bien...
Pour vos raisons.
Typiquement. Donc, j'ai habité aux États-Unis, on en a déjà
sans
parlé. Ouais. Je vais le rappeler à chaque fois, quand même. Donc, j'ai... Par exemple, un gars du syndicat avec qui je travaillais, à 72 ans, il travaillait encore. Pourquoi ? Parce que toute sa retraite qui avait été placée par des fonds de pension, elle a disparu en 2008 avec la crise créée par... La crise des subprimes créée par les ultra-riches que tout le monde a payé, parce que enfin on a tous mis...
Mais qu'on devrait avoir, on devrait pouvoir avoir le choix.
Et c'est là. Alors ça, c'est un débat en effet idéologique. Oui. Est-ce que l'État est là pour nous protéger de nous-mêmes? Parfois, je pense que oui.
Y compris en faisant des réformes impopulaires.
Alors donc.
C'est-à-dire que vous êtes d'accord là.
Alors on est d'accord sur le principe, mais pas sur les exemples, mais voilà, la question c'est quand même, est-ce qu'on veut vivre dans une société de jungle où en fait à 72 ans potentiellement, parce qu'un trader a pété un câble sous coke et a investi notre fonds de pension, on doit retourner au travail.
La finance, hein,
mais en France,
on doit retourner travailler à 72 ans. Non mais je suis désolée, France, mais c'est ça qui s'est passé.
Pas en France.
Non, justement parce qu'on n'a pas de retraite en capitalisation, donc c'est super.
Il faut se battre pour sauver ce régime de retraite par répartition. Et on a un mur démographique devant nous.
Mais Erwan Tison, pourquoi 65 ans? Pourquoi pas 67 ou 63?
Mais c'est une très bonne question, vous savez. Surtout qu'en plus, elle est profonde. Enfin, avoir un âge de départ unique pour tout le monde, c'est profondément injuste. Vous l'avez rappelé avant, vous avez des professions qui commencent à 16, 17 ans. Et pour eux, effectivement, à 65 ans, la question ne se pose même pas. Vous savez, la différence qu'on peut avoir, par exemple, avec des pays nordiques qui ont, par exemple, un pilier aussi par capitalisation, et ce n'est pas du tout la jungle, pour regarder ce qui se passe aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont une pension de retraite qui a un taux de remplacement des retraites qui est le double que celui qu'on a aujourd'hui en France. Parce qu'ils ont double de piliers, un public, un privé. Mais aujourd'hui, par exemple, au Danemark ou en Suède, quand vous partez en moyenne en retraite à 65, 66, 67 ans, la question de la pénibilité ne se pose absolument pas. Pourtant, porter un carton en Suède, c'est pas plus lourd que le porter en France. Pourquoi ça se porte pas? Parce qu'en fait, ils ont constitutionnalisé la formation professionnelle et qui fait que là-bas, quand vous n'avez pas de diplôme et que vous avez à 19 ans, vous êtes obligé de faire manutentionnaire, par exemple, la société se fait justement un devoir de vous offrir une formation pour faire en sorte qu'à 25 ans, vous ne portiez plus de carton.
En France,
quand vous n'avez pas de diplôme, vous portez des cartons. Toute votre vie, on se dit, au pire, vous partirez en retraite à 55, 57 ans. Mais de toute façon, vous êtes cassé, quoi qu'il arrive, à partir de 40 ans. Donc, tant qu'on n'aura pas justement pris la pénibilité par le vrai bout, c'est-à-dire celui de la formation professionnelle et de la pénibilité des métiers dans leur globalité, on n'arrivera pas, tout simplement, on sortira pas de ces débats purement stériles sur 64, 65, 66 ans.
Tout à fait. Non, mais ça, c'est un vrai sujet quand même. Hein. Sûr, 40% des seniors il y a seulement 40% des plus de 60 ans qui sont en emploi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de 60 à 65 ans?
Si tu repousses à 65 ans, tu vireras les vieux plus tard.
Et voilà. Ce qui s'est passé à chaque fois qu'on a repoussé l'âge de la retraite, c'est qu'on a augmenté l'employabilité des seniors.
Exactement. Merci, Erwan Tison, d'avoir été avec nous. Je sais que vous étiez très pressé. C'est hyper sympa, en tout cas, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Puis c'était très clair, en plus. On a beaucoup de témoignages, évidemment, au 32-16. Voilà. La retraite, ça, manifestement, ça crispe énormément de gens. Et on va donner la parole à Pierrick, qui nous appelle de la Chapelle d'Armentières dans le Nord. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Et vous êtes ouvrier paysagiste, Pierrick. Ça vous énerve, cette histoire des 65 ans?
Un petit peu, oui. Un petit peu. Après, j'ai un cas spécifique, parce que comme j'explique au standard, moi, je suis français ouvrier en Belgique. D'accord. Et nous, la retraite, c'est 67 ans.
67 ans, ah oui.
67, et ça pose problème à personne, parce que il y a un moment, il faut financer les retraites des personnes, de ceux qui sont en retraite, justement, pardon. Ouais. Et c'est comme ça, c'est le système. Si on veut que ça perdure, il faut le faire. On veut pas, comme vous disiez tantôt, de tout ce qui est capitalisation, etc. Mais si on veut que le système soit viable, c'est tout. Il faut travailler, point. Et on va s'en sortir avant, mais moi j'ai une retraite complémentaire, je mets de côté tous les mois, je m'arrange, je fais des heures, je travaille comme un chien, entre guillemets, pour mettre de côté pour plus tard, et si je veux partir avant, je partirai avant, mais j'aurai pas ma retraite complète, et c'est tout, c'est comme ça.
Et justement, le taux en Belgique, c'est-à-dire que vous partirez avec une bonne retraite à 67 ans, ou finalement pas plus qu'en France, quoi?
Pas beaucoup plus qu'en France, mais c'est comme ça. C'est malheureusement ce système, en fait. On peut plus, on est parti là-dedans. Il y a un moment, à jamais vouloir changer les choses. Si on change jamais les choses, on veut jamais changer les choses. Ça ne bougera pas, et c'est tout. Ouais. C'est pas, partir à 65, 67, honnêtement, moi j'ai 30 ans ici. tout va bien et on continue et on s'entretient et on fait un effort pour on adapte aussi le travail. J'ai un collègue qui est bien plus âgé et qui adapte son travail et tout va bien.
Bien sûr, il porte moins de charges lourdes.
Faut arrêter de se plaindre aussi, quoi. C'est pas.
Mais c'est bien de rappeler, Pierrick, et vous avez raison de le faire, que voilà, effectivement, chez nos voisins, bah, c'est plutôt 67 ans. Merci beaucoup, Pierrick, d'avoir été avec nous. Son de cloche différent du côté de Jean, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Villelongue d'Elmont. C'est comme ça que ça se prononce ?
Oui, c'est comme ça.
D'Elmont. Oh là,
oui, allô ?
Voilà, Pierrick Olegas me reprend. Ça va, Jean ?
Allô, bonjour.
Oui, vous m'entendez, Jean ?
Oui, je vous entends.
Ouais. Eh bien, écoutez, super. Oui. 65 ans, c'est une erreur pour vous, pour partir à la retraite ?
Ben oui, c'est une erreur complètement, hein. Parce que vous parliez de financement, mais en fait, il y a le fonds des réserves des retraites aussi, et là, Jicarco, il y a de l'argent, hein, pour financer ce palier, quoi. Je veux dire, c'est, à mon avis, c'est Macron, il veut piquer l'argent des régimes privés pour le balancer à l'URSSAF, je crois que j'ai bien compris, quoi. Puis je le prendrais bien au mot, monsieur Macron, quand il a dit, je vais pas faire payer 400 euros de plus par an aux ouvriers, aux salariés, ou comme moi, mais ça fait 33 euros par mois, à peu près, mais qui pose la question, est-ce que les gens, ils préféreraient 33 de plus par mois à payer, en faisant une heure ou deux heures supplémentaires par semaine, par exemple, et on finance? Et voilà. Et après, l'histoire des pays européens, moi 67, 65 ans, en France, c'est nous qu'on cotise le plus au système de retraite. Mm-hmm. C'est normal qu'on aime mon système.
Après, c'est sûr, pas, même on a un parler, système très redistributif et c'est notre système qui veut ça. Mais c'est intelligent ce que dit Jean Perico. Est-ce qu'on peut pas nous laisser le choix? C'est-à-dire que Jean, il dit, bah moi, si c'est 400 euros de plus par an, bah moi, je suis prêt à payer 33 euros de plus par mois, mais à continuer à partir à la retraite à 62 ans.
C'est une option qui correspond à l'état d'esprit de mentalité. Bah ouais. La vraie solution, hein, vous la connaissez. C'est de faire en sorte qu'il y ait toujours des cotisants qui puissent cotiser. C'est-à-dire qu'on ait des emplois industriels. Donc l'important, c'est de réenrichir ce pays avec de vraies dispositions économiques, européennes, continentales, ce que l'on veut, mais que l'on redonne à la France. On a tout dilapidé en 40 ans. Tout dilapidé.
C'est sûr.
Et là, le nucléaire est en train de dilapider. Nos ingénieurs sont partis, on est en train de le remonter. Nos ingénieurs sont déjà partis, ils ont foutu le camp, on sait pas grave. On ne fait qu'appauvrir ce pays. La social-démocratie et les libéraux, pour les meilleures intentions du monde, les pauvres, ils sont bêtes. Mais je vois pas d'autre explication pour avoir fait en sorte qu'il n'y a plus d'emplois aujourd'hui, cotisants d'emplois marchands. Or, la seule solution, elle est là. Et on continue à tourner autour du pot sans envisager cette priorité, réindustrialiser ce pays pour qu'on ait des gens qui puissent cotiser. C'est pas sorcier, mais non, parce que c'est contraire aux lois du marché, c'est contraire à l'acte unique, c'est contraire au libéralisme, c'est contraire à... Donc on se laisse piller par les États-Unis, par l'Allemagne, on se couche devant les Allemands qui nous font rouvrir des centrales à charbon. Vous vous rendez compte qu'on a dû rouvrir une centrale à charbon parce qu'on n'a pas de nucléaire pour plaire aux Allemands.
Aussi, bon.
Quand est-ce qu'on va être chez nous à décider à faire ce qu'on veut en fonction de la souveraineté nationale?
Mais,
voilà.
Est-ce que ce serait pas une bonne phrase de référendum? Parce que, en fait, on s'est souvent demandé, est-ce qu'il faut un référendum sur les retraites? Alors, pour ou contre les 65 ans. Mais là, si vous dites.
Mais là, il va falloir poser 20 questions.
Mais attends, en fait,
deux auditeurs, on a trois propositions différentes.
Mais si tu fais travailler plus ou payer plus. Et voilà.
Ah, mais moi, je pense que c'est
moi,
une bonne idée.
Ouais,
je pense que c'est une bonne idée. Mais payer plus chacun.
Et on la met jamais sur la table.
C'était l'idée de Sarkozy, hein.
Décider chacun. Je veux dire un truc incongru, hein.
Ouais.
Mais décider de permettre à chacun de payer plus pour avoir plus de retraite, ça s'appelle la retraite par capitalisation.
Non, c'est payer plus pour partir au même. En fait, c'est où tu pars à 65 ans et tu gardes tes cotisations, ou tu pars à 62 mais tu payes plus.
Estelle, le principe d'une retraite par répartition, c'est que ça ne peut pas être une retraite à la carte pour chacun.
J'ai compris, mais si tu
payes
plus,
parce que sinon c'est ultra déficitaire pour tout le monde.
T'as pas besoin de partir à 65 ans. Donc tu peux poser ça aux Français, travailler plus ou payer plus.
Un cadre, il paye plus, il cotise plus, mais c'est normal qu'il prenne la retraite en dernier.
J'ai compris.
Parce que ce qu'il a cotisé en plus, ça va servir à ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt.
Et si le cadre, il a envie de prendre sa retraite à 62 ans et de payer beaucoup plus pour les autres, mais de partir à 62 ans, on devrait lui en laisser la possibilité.
Bien sûr.
C'est ça qui ne va pas dans ce pays.
Il y a des gens qui seraient partants.
Mais oui, il y a des...
Moi, j'accepterais sincèrement ce système.
Il y a des cadres qui ont envie de partir plus tôt, parce que même si leur boulot, il est très sympa, eh ben, ils ont envie de profiter de leur retraite, ils ont gagné très bien leur vie, ils ont beaucoup cotisé, ils ont envie de partir plus tôt.
Mais
pourquoi on ne leur laisserait pas cette possibilité s'ils payent plus?
Mais ceux-là, ils peuvent, puisqu'ils ont en général, eux, capitalisé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui n'ont pas les moyens de capitaliser.
Alors, il faut garder les deux. Il faut pouvoir capitaliser.
Le choix.
Voilà.
Trouvons un point d'accord avec ça.
Ben, moi, je
pense que pour une fois, on fera du en même temps. Voyez,
ça s'appelle la retraite à la carte.
C'est mon côté modem.
Bon. Oui,
c'est ton bon côté.
Paul Lassalle, vous avez des messages.
Oui, la retraite à... Là encore des propositions. La retraite à 65 ans, une hérésie. Ne pourrait-on pas plutôt voter une loi imposant aux entreprises du CAC 40 faisant des profits records de reverser une contribution annuelle complétant ce qu'il va manquer?
C'est possible.
Et deuxième proposition de Thierry qui dit « Je suis de 71, je n'accepte pas que maintenant... Je vais devoir travailler 4 ans de plus, je ne l'accepte pas. En revanche, ça ne me dérange pas si en compensation, j'ai une semaine de 4 jours à compter de 60 ans. Et pendant les 4 années ou 5 années qui me restent, je peux former ce qui arrive.
C'est une piste.
C'est
très intelligent.
Des semaines de 4
jours. Vous voyez, les Français sont pas d'idée.
Nos auditeurs sont formidables.
Merci, Paul.
Nos auditeurs sont formidables.
Ce sont les auditeurs.
Oui, mais c'est toi qui prends ta parole.
Que l'État, que le gouvernement nous appelle. Je ne comprends pas.
C'est le principe du référendum. Il y a des auditeurs qui peuvent faire des lois.
Mais c'est ça. Mais oui. Et une petite consultation à Estelle, nous, on va leur en donner des idées si c'est que ça.
C'est un vrai sujet chez les profs, par exemple. Ma mère, par exemple, elle va devoir travailler jusqu'à 67 ans.
Oui. Alors qu'elle est prof?
Ben oui. Mais elle a fait 5 ans d'études, donc elle a commencé après. Ah bah elle a eu un enfant. Ben oui, mais il faut 5 ans d'études pour être prof.
Parce que si elle a eu des enfants, elle a des trimestres. Donc, en tant qu'enseignante.
En l'occurrence, et elle m'a élevée seule, donc elle a aussi quelques trimestres en plus par rapport à ça.
67 ans, ça me paraît beaucoup.
Bah non, pour avoir une retraite pleine, il faudrait qu'elle travaille jusqu'à 67 ans. Et puis comme on sait que la retraite des fonctionnaires est calculée sur les 6 derniers mois, c'est intéressant quand on va au bout, mais quand on va pas au bout, c'est vraiment problématique. Et donc par exemple, ça pourrait être très intéressant chez les profs avec des gens qui ne peuvent plus tenir des classes à 38 gamins à 67 ans, mais qui peuvent former des nouveaux profs, corriger des copies, etc. Mais ça c'est jamais proposé et c'est vraiment un problème, ça je trouve, parce que c'est pourquoi ça suggérerait qu'on écoute les gens.
Exactement. Allez, dans un instant, le zapping le meilleur d'RMC. On se demandera si vous êtes inquiet de ces Français qui se font justice eux-mêmes. On reviendra sur le fait divers. Ce week-end, un homme lynché à mort par des villageois qu'il suspectait de cambriolage. Le gouvernement en fait-il trop avec le Covid? On va peut-être être obligé de remettre les masques dans les transports. Et puis, l'alliance des droites va-t-elle avoir lieu? Vous savez que les Républicains ont voté ce week-end pour élire leur nouveau président. Ce sera dans un instant le zapping. On va vous donner quand même le résultat de la consultation qu'on a faite sur Twitter. Retraite à 65 ans, serait-ce une grave erreur?
Eh bien, c'est oui pour 77% des gens qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Mais c'est pas si massif que ça.
C'est net quand même. On a eu des 80 et des 90.
C'est net, mais voilà, on a eu pire. J'ai l'impression que les gens sont bien gênés.
Vous voyez,
c'est quand même 3/4, 1/4.
Ça serait un beau sujet de grand débat. Vous savez, le grand débat qui a servi à rien. Il ferait un grand débat sur l'âge des retraites, il prendrait les adhérents.
Quel grand débat, déjà.
Ben voilà.
Mais oui, mais vous avez raison, Péric. Encore une idée, Estelle Midi, mais c'est fou. Mais on foisonne aujourd'hui.
On peut faire un Grenelle Estelle Midi des bonnes idées.
Mais tout à fait, c'est un foisonnement. Cette émission, c'est absolument incroyable. Et dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, évidemment, avec Paul Lassène, Perico Légas, Loumir Laprès et Jérôme Lavrieux. Toute la bande est très en forme aujourd'hui et ça tombe bien parce que voici tout de suite le meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va démarrer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin. Êtes-vous inquiet de ces Français qui se font justice eux-mêmes? Ce week-end, un homme a été lynché à mort par des villageois qui le suspectaient de cambriolage. Un drame qui rappelle que de plus en plus de citoyens se font justice eux-mêmes. Et cela inquiète beaucoup. Denis Jacob, il est secrétaire général du syndicat Alternative Police.
On a la parole d'une personne qui pense que c'est lui qui s'était introduit à son domicile. Aujourd'hui, c'est pas établi. Et de quel droit on ferait une expédition punitive sur une personne dont on sait même pas s'il est responsable de ce qu'on lui reproche, qu'il ne peut même pas se défendre pour dire si effectivement c'est lui qui a tenté de commettre ce cambriolage ou pas. Et c'est particulièrement inquiétant dans notre pays. On commence comme cela, et puis demain, on va avoir quoi? On va avoir des milices, on va faire sa loi soi-même. C'est absolument pas acceptable. Nous sommes dans un état de droit et seule la police et la justice doivent établir les faits. On ne fait pas une expédition punitive sur un sentiment.
Même si police et justice sont perfectibles et que vous dites que vous faites avec des bouts de ficelle.
Il faut s'inquiéter de ces dérives, Perico Légas.
Ben, le problème, c'est que c'est tragique. Et en plus, ça peut tomber sur quelqu'un qui n'y est absolument pour rien. Mais même s'il est responsable...
Oui, un cambriolage, ça ne mérite pas d'être tué.
Ah non, mais c'est monstrueux. Ce fait divers est absolument tragique.
Il n'a rien fait.
Sauf, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ils considèrent que la personne, si le coupable, s'il est arrêté, fera quelques semaines de prison ou rien, ou sera relaxé. Et donc, il y a aujourd'hui dans le sentiment des gens qui sont dans des territoires où il y a beaucoup d'exactions de ce genre, ils se disent, on va faire notre... Il y a déjà eu des faits divers qu'on a commenté ici. Il y a de plus en plus la volonté pour les citoyens français, citoyennes, de faire leur police eux-mêmes, parce qu'ils savent que si la justice, la police, et surtout la justice, s'en prenne, il n'y aura pas de sanctions, et que quelques semaines après, le récidiviste pourra revenir faire son forfait. Donc, au gouvernement à tirer les conclusions urgentes, il faut que les peines soient appliquées, que la justice soit implacable avec les gens qui fraudent et qui sont hors la loi, et surtout que les peines sont appliquées en totalité. Ça serait déjà un signal pour...
En disant ça, tu commences à excuser les gens qui l'ont
fait. Jérôme, c'est le contraire. C'est pour dire que pour éviter que ça aille plus loin.
La foule en France, que ce soit dans un quartier de banlieue, que ce soit dans un village qui n'a pas de problème de banlieue à côté de Nice, La foule est l'ennemi du peuple. En France, la justice, elle n'est pas rendue ni par la foule, ni par le peuple, elle est rendue au nom du peuple.
Mais on est bien et d'accord, mais personne dit le contraire, faire. Jérôme.
Et les gens ne peuvent pas, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelles que soient les conditions sociales, quelles que soient les explications sociologiques, pathologiques, tout ce que tu veux m'expliquer, moi je ne peux pas l'intégrer.
Mais tu parles du fond, là, on ne parle pas du fond, on parle de là, sur le fond, on est d'accord. Mais on est d'accord sur le fond, je t'ai dit que c'était tragique. D'accord. Je t'ai dit, pour éviter que ça se reproduise, il faut qu'à un moment donné, les pouvoirs publics prennent des dispositions. Qui fait que les gens n'aient pas la sensation de l'impunité.
Là, c'est je t'aime bien. Et je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai, tu me fais dire ce que j'ai pas dit.
Non.
T'as passé ta vie à faire dire aux autres ce qu'ils ont pas dit. Moi, ça marchera pas.
Je retire, te fâche pas. C'est pas bon pour la santé. Je te dis juste un truc, c'est que on ne peut pas, nous, qui avons une petite parole, tenter de trouver la moindre explication. Je le dis, parce que quel que soit l'endroit où ça se fait, on doit avoir le même haut-le-cœur quand on l'apprend.
Mais ça veut dire que t'as une rage qui est quand même incroyable pour en arriver là.
Alors, sors de ton périgord vert.
C'est pas une explication, non, hein. Je les dédouane pas.
Pour moi, c'est le phénomène de groupe. Et je suis
sûr qu'il
y a eu des choses comme ça en Italie, qui ont été largement documentées.
Ça la charge.
Et les gens, on va plus trouver personne qui l'a fait. Parce que même eux, ils vont dire, mais non, mais je voulais pas que ça aille jusque-là. J'étais pas dans ça. Mais sauf que ça se fait. Et si à un moment, t'as pas un petit truc dans ton cerveau qui dit, et arrête, tu déconnes, tu peux manifester, mais là, tu déconnes, t'es en train de tuer un type, tu sais même pas s'il est coupable ou pas.
Quelle est la solution?
Et même s'il est coupable, tu n'as pas le droit.
Alors, ta solution, c'est?
Eh ben, c'est de se servir de ça pour rappeler les choses, pour dire que l'ensauvagement.
Donc, laissez-vous, voilà, d'accord.
Ça va bien marcher.
C'est aussi dans des villages. D'accord. C'est pas juste des personnes d'origine étrangère. C'est aussi des gens qui sont gaulois.
Eh ben, tu vas juste multiplier le phénomène par 10. Tu vas juste multiplier le phénomène par 10.
Non. Lumière, la presse, ça vous inquiète?
Oui, ben en fait, je pense que moi je me pose un peu toujours la question quand il y a des faits divers, à quel point c'est représentatif d'une tendance dans la société, parce que je pense que parfois il y a des crimes atroces qui nous choquent par la gravité de ce que ça représente, de ce que ça dit.
On en a parlé il y a pas longtemps. Il y a des milices qui se créent entre guillemets des groupements de voisins à Nantes par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça qui existaient moins il y a quelques années.
Bien sûr, moi ça me terrifie parce que on le voit dans d'autres pays, par exemple, je pense aux États-Unis où il y a des lois qui autorisent, je pense aux lois Stand Your Ground, par exemple, où quand quelqu'un vient nous cambrioler chez nous et qu'on est armé, on a le droit de le tuer. Oui. C'est de la légitime défense. Et ce concept de légitime défense, il est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on admet qu'on n'a plus confiance dans l'État, dans la loi. Et la loi, c'est qui? Je suis d'accord, c'est nous, en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose de lointain qui est contre nous. Et je pense que c'est le sentiment que certaines personnes ont, que finalement, l'impunité, il ne se passera rien, etc. Mais je pense que c'est aussi, ça doit nous interroger, nous, parce que quand on fait ça, quand on se rend coupable de ce genre de violence, on détruit une part de nous-mêmes, entre guillemets. Je pense qu'on ne se remet jamais de lyncher quelqu'un à mort. Qu'est-ce que ça fait aux gens, bien évidemment, qui subissent? Ah bah, non, mais ça, c'est terrible. Mais je pense que c'est une violence généralisée, y compris pour les gens qui perpétuent ces violences, qui les détruit et qui détruit la fibre sociale.
En France, c'était très rare.
Bien sûr, heureusement. Et il faut pas en faire.
Oui, mais c'est de plus en plus fréquent. Non, faut se poser la question.
Il faut pas en faire quelque chose.
C'est fréquent, mais ça arrive de plus en plus.
C'est la responsabilité de l'État de résoudre ce problème.
De quelqu'un, c'est pas fréquent.
D'accord.
Ça n'arrive pas de plus en plus.
C'est un problème d'État.
C'est arrivé cette fois-ci. C'est une fois de trop.
C'est un problème d'État. C'est un problème d'État.
Les GG ce matin, le gouvernement en fait-il trop face à la triple épidémie en cours dans notre pays, avec la bronchiolite, le Covid et la grippe? Le ministre de la Santé a déclaré hier que son bras ne tremblerait pas s'il fallait décider le retour obligatoire du port du masque. Le ministre des Transports s'est quant à lui pris en photo avec un masque dans le TGV. Une théâtralisation qui ne fonctionne pas pour l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari.
Je pense qu'il y a ce qu'on devrait faire dans un monde rationnel et la politique. Et la politique aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as dit, Olivier. C'est toutes l'inflation, les difficultés, demain la réforme des retraites, les grèves dans les transports. Donc, on essaye de pas trop faire chier les Français, comme vous le disiez tous. Et après, la rationalité, on le voit très bien dans les pays asiatiques, en fait, depuis maintenant une quinzaine d'années. Et ils l'ont fait d'ailleurs parce qu'ils ont échoué depuis H1N1 à maintenir le virus. C'est dès qu'il y a une phase aiguë, pendant quelques jours, quelques semaines, il y a port du masque, et pour le coup, obligatoire, mais c'est circonscrit dans le temps, et c'est complètement inséré dans les pratiques. Mais nous, on n'arrive pas à faire ça. Donc, on théâtralise beaucoup tout ça, on en fait des tonnes, et c'est pour ça que ça devient insupportable, je pense, du point de vue des citoyens. Il faudrait que ça devienne quelque chose de normal.
Est-ce qu'ils en font trop, Jérôme Lavrieux? C'est vrai que non, mais Clément Beaune avec un masque, en train de prendre le TGV. Mais est-ce qu'on a besoin de Clément Beaune, ça, s'il faut mettre un masque ou pas?
En tout état de cause, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, les gens le mettent pas.
Oui, bah donc ça sert à rien.
Donc il faut qu'on attende que quelqu'un décrète que c'est obligatoire pour ma santé, pour que moi-même je me dise ah ben je vais obéir et je me pose pas la question de dire mais pour ma santé est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à le mettre maintenant plutôt que d'attendre que ce soit trop tard.
Vous avez aussi des gens notamment les jeunes et j'en ai autour de moi qui vous disent Alain mais moi là j'ai trop souffert avec ce masque, je ne le porte plus, basta.
Et ben moi j'ai des jeunes autour de moi qui disent COVID. Moi je le mets parce que j'attends pas que les vieux obéissent à une injonction pour le faire.
Non, mais il te dit en fait ils s'en foutent de mettre le masque ou pas, ils te disent moi je le porte pas, si c'est obligé ben je serai obligé donc je le ferai.
Ça veut dire quoi Estelle? Ça veut dire qu'on va attendre qu'il y ait un vrai accident?
Ils s'en foutent aujourd'hui du COVID.
Oui, mais ils le mettront s'il y a des morts.
Bah oui. Non, ils le mettront si on les oblige.
Non, si on les oblige parce qu'on demande au pouvoir public d'attendre qu'il y ait le dégât.
Bah, s'ils sont jeunes.
On demande au pouvoir public d'attendre qu'il y ait des morts ou des cas graves de maladie pour le remettre, au lieu de faire du préventif. C'est complètement stupide. Il faut le remettre, c'est tout. Tant qu'on est en période de forte contamination, on est dans
un. Là, il y a un peu plus de monde dans le métro.
On est dans une période de doute. On ne sait pas comment ça peut évoluer. Pour l'instant, c'est encore l'Omicron. On ne sait pas comment ça peut évoluer. La sagesse serait que les pouvoirs publics nous disent on remet le masque parce que on ne sait.
Bah voilà,
obligatoire tout de suite, voilà.
Il faut qu'ils obligent.
Mais bien sûr.
Vous êtes d'accord avec ça, Loumia?
Moi, je pense que c'est un peu comme les 80 km/h. C'est un symptôme, le masque. Quand les gens ils disent je suis contre les 80 km/h, c'est pas vraiment le sujet des 80
km/h. Le COVID a tué, hein. Plus que les 85 km/h.
Non, mais je veux dire les morts sur la route, ils existent aussi. Hein, donc à chaque fois, il y a un vrai enjeu.
C'est pour ça qu'on met des limitations obligatoires.
Merci. Mais c'est quoi le symptôme? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent et c'est vrai, on a énormément souffert du Covid. On a été enfermés pendant des mois, alors que nous, on ne meurt pas du Covid. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on mette un masque? Non, bien évidemment. Par contre, je pense que ce que ça dit, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, nous qui ne sommes pas menacés par le Covid.
Mais non, on sera tous.
Ça va, c'est une vie normale si tu as juste un masque à mettre dans les transports.
On est rentré dans une période de démographie mondialisée qui fait qu'on aura toujours un risque de virus, c'est tout. Et ça sera de pire en pire.
Ah bah, avec la
ce qu'on a vécu, c'est le pain blanc.
Ça va être sympa.
Voilà.
Et la grippe espagnole, il n'y avait pas de mondialisation. On a eu la grippe espagnole et on a eu des millions et des millions de morts.
Il y avait une mondialisation, c'est les bateaux marchands qui ont amené la peste un peu partout.
Les bateaux combattants.
Bon, écoutez, on va pas faire un débat sur la peste. Ce n'est pas le lieu ni l'heure. Bon, on va terminer avec une petite note positive. Oui, parce que c'est pas l'émission la plus gaie qu'on ait faite.
C'est anxiogène pour l'instant. Hein,
je sais pas comment.
Qui est là pour nous apporter un peu de bonheur, d'insouciance et de légèreté? Les Bleus, évidemment, et Jeannot Rességué. Ah. La victoire des Bleus hier 3-1 face à la Pologne. Allez, pour le plaisir, on va réécouter les commentaires d'un Jeannot Rességué survolté hier.
Le ballon de la part de Mbappé. Giroud.
Oui.
Dembélé qui récupère le ballon, Dembélé qui va décaler, Dembélé Mbappé, Mbappé à pique droit, la pile droit, la frappe de Mbappé. Le but de Kylian Mbappé.
Le 1 contre 1 face à Cash, ballon pour Mbappé, la frappe.
Ça dit quand même le peu de sûreté que l'on a de cette équipe de France. Le fait de s'exalter.
C'est n'importe quoi.
Elle gagne un match qui était gagné d'avance. Et il est dans l'euphorie.
On dit ça aux Allemands et aux Belges qui ont été éliminés, au premier tour. Eh ben oui.
Des beuglements sur les radios du monde, j'en entends.
C'est pas des beuglements, c'est extraordinaire.
Mais ça veut dire qu'il était. Ça veut dire que l'équipe de France n'était pas sûre d'elle.
Pas du tout. C'est juste que Jeannot
et
heureusement qu'il est là. Et Jeannot, c'est génial. Il nous fait vivre des émotions incroyables.
Oui, mais quand même, on sent qu'il a eu peur.
Mais il n'a pas peur du tout.
Mais bien sûr que si.
On n'a pas beaucoup tremblé. Hein. On aura peut-être plus peur sur France-Angleterre, sur samedi prochain.
Alors là, il fait un malaise.
Jeannot, mais enfin, il y en a plus d'autres. Il a dû faire 5
minutes. Mais pas que lui, ils sont tous là dans un état
d'exaltation. Mais pas du tout, mais c'est extraordinaire.
Mais c'est jamais qu'un ballon derrière lequel on court.
Et vous n'avez pas d'autres réflexions débiles comme ça à donner à cette antenne?
Pas aujourd'hui.
Écoutez, mais abstenez-vous.
Je m'abstiens.
Je ne veux plus parler de foot avec vous. Je le refuse. Je vais mettre ça dans mon
compte. J'ai besoin d'une formation.
Ne vous formez pas. Ne prononcez pas le mot foot ou ballon rond ou n'importe quel synonyme qui se rapporterait au sport en général. Tiens, allez, dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Là, vous aurez la parole. On va parler des box cadeaux. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'offrir ça à Noël? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC. RMC Story, c'est le moment de parler conso dans Estelle Midi avec Stéphane Pedrazzi. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Stéphane, plus que 19 jours avant le réveillon de Noël, et bien sûr, on va parler cadeaux de Noël. Et parmi les cadeaux qui sont souvent déposés sous le sapin, surtout quand on ne sait pas quoi offrir, et bien c'est une box pour une nuit d'hôtel, un spa ou encore un dîner au restaurant. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'offrir ces box, Stéphane ?
Alors évidemment, c'est très pratique, tu l'as dit, quand on n'a aucune idée. En plus, le choix est varié, hein. Massage, chaud en parachute, dîner dans un restaurant gastronomique, une demi-heure de conduite dans une Ferrari. Mais est-ce que c'est vraiment un bon plan ? Je vais vous donner un chiffre qui va vous aider à trouver la réponse. Entre 20 et 30% des box ne sont jamais utilisés. Et encore, c'est une estimation, puisque le chiffre réel, les entreprises ne le communiquent pas. En fait, le pourcentage de non-utilisation, c'est un chiffre qui est pratiquement aussi protégé que les codes nucléaires, pour une simple et bonne raison, c'est que ça fait partie, en fait, du business model. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si toutes les personnes qui avaient une box l'utilisaient réellement, eh bien, les entreprises feraient tout simplement. C'est exactement le même principe que les salles de sport. En fait, si toutes les personnes qui étaient inscrites dans une salle y allaient en même temps, il n'y aurait pas de place pour les accueillir. Voilà. Et c'est un modèle économique, en fait, qui repose sur l'absentéisme. Il faut que des personnes paye pour rien pour que ce soit rentable.
Mais alors, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas leur box ?
Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est le choix. Quand il y a trop de choix, on ne sait pas au final quoi choisir. C'est un peu le syndrome Netflix. Ça nous est tous arrivé. Vous passez une heure ou deux à essayer de trouver la série ou le film que vous voulez voir. Puis quand vous l'avez trouvé, il est 22 ou 23 heures. Voilà. Vous allez vous coucher. Ça nous est tous arrivé. La deuxième.
Vous vous couchez tôt, surtout, Stéphane.
Oui, alors, elle regarde toujours le même film, c'est pour ça.
J'étais sûr. C'est ça. Aladdin. La deuxième, c'est la recherche de la perfection. Il paraît qu'on attend toujours le meilleur moment pour utiliser notre cadeau. Ah, Par exemple, on te dit hôtel en pleine nature, tu dis chouette, on ira l'été prochain.
Oui, on va pas y aller.
Tu cherches. Alors je dis pas ça pour toi, mais par exemple, on t'offre un bon pour un spa, tu dis je vais peut-être perdre quelques kilos avant d'aller au spa. Ou on cherche toujours le meilleur moment.
Quel rapport ?
Tout simplement.
On va pas au spa quand on est gros, ça c'est nouveau ça.
Bah je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et puis troisième raison, c'est la date de péremption, Estelle. Entre 12 et 18 mois. On parlera poids après. Si tu veux. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un petit peu fastidieux de prolonger les box. En théorie, on peut repousser.
Il y a qu'à l'utiliser dans les 12 mois, je ne comprends pas.
Oui, bah, tu la mets au fond d'un placard et tu l'oublies, ou tu ne trouves pas le moment, ou il n'y a pas de place. Et ça, on va en parler. Ah bah oui, voilà.
D'accord.
Donc la date de péremption, c'est aussi un problème.
Et pour ceux qui utilisent leur coffret cadeau, est-ce que c'est un bon plan ? Est-ce que vraiment, quand on t'offre un dîner, par exemple, dans un relais château, est-ce que t'as vraiment un dîner dans un relais château ? Ou alors est-ce qu'on te fout en fond de salle et on te file 3 milliardises et voilà ?
Ben un peu les deux. En fait, je vais déjà te donner un chiffre. Les entreprises qui vendent ces coffrets prennent entre 25 et 30% de commission pour payer la fabrication du coffret, la commission du point de vente, les frais marketing. Donc au final, quand on te fait un cadeau de 100 euros, en réalité, la valeur de ton cadeau, au départ, n'est que de 70 euros. Donc si tu vas au resto avec un bon de 100 euros, désolé de te décevoir, mais tu n'en auras pas pour 100 euros dans ton assiette.
Donc déjà, mousseux, elle passe du champagne, quoi.
Oui, aussi, ça peut être ça, ou tu n'auras que 2 crevettes au lieu de 5, par exemple. Ça peut arriver.
Et alors, je me suis toujours demandé si on était traité comme un client normal quand on avait une box, ou un peu comme un gueux. Tu vois ce que je veux dire ?
T'as déjà réservé ?
Non.
Alors, quand tu réserves, il faut déjà signaler, lors de la réservation, que tu viens avec un coffret cadeau.
Oui.
C'est un petit peu comme si tu appelles un cabinet médical et tu dis à la secrétaire médicale que tu es couvert par la CMU. Voilà. C'est à peu près le même genre d'accueil. Non, mais c'est un peu ça. Tu vas pas être super bien accueilli. Non, mais on le dit sincèrement. Ensuite, lorsque tu arrives au restaurant, et je sais pour l'avoir testé, tu n'as pas toujours accès à la carte du restaurant. Parfois, on te donne genre le menu enfant. Non, mais on te donne une carte spéciale. Alors, on te vend ça.
Tu veux dire la carte pastifiée, le truc.
Oui. Non, mais on te dit, c'est le menu dégustation, etc.
Et coquillettes au ketchup.
Oui, et tu vois arriver ton plat, il est tout petit, et tu vois passer les trucs à côté, il y a plein de gambas, ou ce que tu veux.
Et toi,
t'as un menu à minima. Non, mais faut être réaliste. Et puis après, tu l'as peut-être constaté. Non, mais en tout cas,
entendu. Non, je n'ai pas eu de coffret cadeau.
Eh ben, on t'achètera un coffret cadeau.
Ah non.
Il y a un problème de disponibilité. C'est-à-dire que les salons, par exemple, les spas, pour les massages, ont des quantités limitées. Par exemple, ils en font un ou deux par semaine. Évidemment, ils te donnent pas le quota. Et donc, on risque de te dire, ah oui, on a de la place en mars 2023, un mercredi, en fin d'après-midi.
Ah oui.
Ça se passe comme ça.
Ouais, c'est pas un massage à quatre mains, c'est un massage à trois mains. Enfin, voilà, quoi. Et est-ce que c'est légal de refuser un client parce qu'il vient avec un coffret cadeau? Par exemple, on se dit, tiens, on s'offre des coffrets cadeaux, là, à Estelle Midi, on vient à 12. C'est possible ou pas ?
Alors, c'est interdit de refuser en général. Hein, ça, ouais. Tu le savais, ça s'appelle un refus de vente. Alors, si on te dit, ah, je suis désolé, mais on n'a plus de place, ce que tu fais, tu demandes à un ami ou une amie de rappeler quelques minutes après, de demander la même prestation. Si là, d'un seul coup, il y a de la place, forcément, c'est que le refus était lié au coffret cadeau. Oh, c'est interdit. Ça
quand t'appelles en masqué,
vivant.
Personne ne répond. Et...
Oui, ça risque.
Le numéro, personne ne répond. T'appelles en masqué, on te répond.
Le commerçant risque 1 500 € d'amende quand même.
Ah ouais.
Ouais. Et c'est interdit aussi de conditionner la vente d'un produit à l'achat d'un autre. Par exemple, on t'offre un bon pour aller à l'hôtel et on te dit alors, vous pouvez utiliser ce cadeau à une condition, dîner au restaurant de l'hôtel. C'est interdit. Là encore, le commerçant risque une amende.
Merci beaucoup Stéphane. Et personne n'offrira donc de box cadeau à Noël. On l'a bien compris. Vous avez bien découvert.
Bah oui, elles sont mortes.
Vous vous êtes fait des amis là.
Pille, la box cadeau.
Vous voulez les noms,
Hein. Il reste que deux gros acteurs sur le marché. Il y en a un qui s'appelle Smartbox et l'autre Wonderbox.
Ouais, bah, je peux vous dire qu'ils vous offriront rien à Noël. Non, ça, oui, alors là, ça c'est sûr.
Pas
de
j'ai pas la peine d'aller demander un boulot.
Stéphane Pedrazzi, c'est très intéressant en tout cas. Merci. La minute conso avec Stéphane Pedrazzi tous les jours à 13h50.
Et parfois avec Paul aussi.
Évidemment. Allez, dans un instant, on parlera de cette affaire à Cannes. Commerçant privé de son emplacement sur le marché parce que son fils de 14 ans a commis une agression sur une vieille dame. Les parents doivent-ils payer pour leurs enfants? On attend vos réactions au 32-16. Et puis si vous voulez écouter la rubrique de Stéphane, c'est en podcast aussi, à la fois sur rmc.fr et sur les plateformes de téléchargement. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.